Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Cette émission est consacrée à l'Académie des sciences et particulièrement à son rôle, à son implication dans les grands débats de la société actuelle. Et pour nous l'expliquer, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Monsieur Bach, bonjour.
Bonjour.
Je rappellerai simplement que vous avez été élu correspondant de l'Académie en 1977, puis membre en 85 et que vous êtes secrétaire perpétuel depuis janvier 2006. Vous êtes le secrétaire perpétuel de la deuxième grande division de l'Académie des sciences, puisqu'on a compris qu'il y avait deux grandes divisions, et celle que vous dirigez, c'est la division des sciences chimiques, biologiques et médicales. Vous-même, vous appartenez à la section de biologie humaine et sciences médicales, et cela ne nous étonne pas quand nous savons que vous êtes un professeur d'immunologie à l'université René Descartes à Paris 5, et auteur d'un gros traité d'immunologie que j'ai vu sur mon bureau, mais il y en a certainement d'autres que je n'ai pas vu. En tout cas, l'immunologie est votre discipline. Monsieur Bach, pouvez-vous nous donner un tout petit peu plus en détail les diverses sections qui composent votre division ?
Oui, alors la division est organisée en quatre sections. La première est la chimie, vous l'avez citée. Les sciences chimiques relèvent de deux types d'aspects scientifiques. D'abord, la chimie que j'appellerais très fondamentale autour des structures, qui n'est pas sans parenté avec la physique. Et puis aussi la chimie un peu plus appliquée, un peu plus finalisée, comme on dit, qui se tourne vers la compréhension de certains mécanismes biologiques ou même la recherche de médicaments. Ça, c'est la section de chimie. Et puis les trois autres sections concernent la biologie. Bon, la biologie occupe une place grandissante dans les sciences, on peut dire facilement le tiers. Difficile de donner un chiffre précis. Et nous avons donc trois sections de biologie. La première concerne ce qu'on appelle la biologie cellulaire et moléculaire et la génomique, c'est-à-dire finalement l'analyse, comme son nom l'indique, au niveau des gènes et des molécules de tous les aspects de la biologie. Disons que c'est la biologie vue dans sa précision élémentaire, si vous voulez. À l'inverse, la seconde section de biologie est la section de biologie intégrative qui, comme son nom l'indique, essaye d'étudier les phénomènes pris dans leur ensemble comme système dans un organisme. Et cette section inclut notamment la biologie donc des mammifères, mais aussi la zoologie, et inclut aussi la biologie végétale, qui est un élément, les plantes, c'est très important bien sûr. Puis la troisième section est tournée vers l'homme, la biologie de l'homme, et allant jusqu'à ses applications médicales. La médecine est désormais une science à part entière. Je suis très, très fier d'être le premier professeur de médecine en exercice secrétaire perpétuel, mais ça a une signification, ça veut dire que la médecine a vraiment rejoint les sciences aujourd'hui, après avoir longtemps été considérée comme un art.
Voilà. Et effectivement, vous êtes à la fois docteur en médecine et docteur en sciences. Et c'est tout à fait enrichissant, certainement, pour pouvoir couvrir de larges sujets. Monsieur Bach, comment l'Académie des sciences, par quel fonctionnement, s'implique-t-elle dans les grands débats de la société actuelle ?
C'est une des activités essentielles de l'Académie que de se placer à l'interface de la science et de la société. Alors, bien sûr, nous avons des activités purement scientifiques. Nous discutons au sein de l'Académie des grands problèmes actuels qui concernent la science fondamentale dans tous ses aspects et même les applications. Mais aussi, nous essayons, autant que faire se peut, et les occasions sont nombreuses, nous essayons d'être utiles à la société pour faire comprendre au public, au pouvoir politique aussi, toutes les circonstances dans lesquelles la science soit peut aider à la solution de problèmes importants, qu'il s'agisse des problèmes économiques, environnementaux ou autres, ou aussi la science peut intervenir pour corriger certaines erreurs d'appréciation qui sont faites. Et vous savez que l'image de la science est parfois un peu battue en brèche et de façon souvent pas totalement raisonnée. Je ne dirais pas raisonnable, je dirais raisonnée. Nous avons donc un vaste programme à ce niveau-là et nous essayons donc de traiter les sujets les plus importants. Alors, parmi ces sujets les plus importants, il y en a un qui nous touche beaucoup, qui nous intéresse énormément, qui est celui de l'enseignement des sciences.
L'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur.
Oui, ça tient à cœur pour toute une série de raisons. Parce que, tout d'abord, si on veut que le futur citoyen comprenne les sciences de façon raisonnable. Il faut lui donner les bases nécessaires pour cela. En plus, l'enseignement des sciences, c'est un outil merveilleux pour apprendre à l'enfant à raisonner, à observer, à interpréter. Donc, nous nous sommes lancés depuis quelques années de façon très importante dans cet effort de collaboration avec le corps enseignant.
Alors concrètement, ça se traduit
Alors,
comment? Par quelles opérations?
ça s'est traduit au début par une opération précise qui s'appelle la main à la pâte, dans laquelle s'est engagé le prix Nobel Georges Charpa, qui est bien connu du public, entouré de deux de nos confrères, Pierre Léna et
Léna,
Yves
Yves
Quéret,
Quéret,
que
qui
vous
sont venus
connaissez
nous en parler à
très
Canal
bien.
Académie.
Bon, alors ça, ça a été un très bel effort remarquable qui commence maintenant à prendre beaucoup de volume en France et à l'étranger. Ils sont
C'est
très...
l'enseignement de la science pour les jeunes enfants.
Et à partir de données expérimentales, vous voyez, c'est pas... L'idée, c'est de ne pas asséner des connaissances sans esprit critique, c'est de partir d'une observation éventuellement issue d'une expérimentation simple, bien sûr, et d'essayer d'en tirer les conséquences pour remonter aux faits, aux concepts.
Apprendre à raisonner, apprendre à
Voilà.
observer.
Voilà. Ça a eu tellement de succès, il faut le dire, que cela a été l'occasion, l'opportunité de nous rapprocher du ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons même été amenés à signer une convention qui nous donne la responsabilité de conseiller le ministre de l'Éducation nationale pour toutes les affaires concernant l'enseignement des sciences. Alors ça peut prendre des aspects assez divers. Moi-même, il se trouve que je m'étais intéressé à ça. J'avais été chargé, avant même d'être élu secrétaire préfectoral, j'avais été chargé de la présidence du groupe qui a réformé le programme des sciences au collège, il y a 2, 3 ans. Et donc, assez naturellement, j'ai suivi cet ensemble de réformes qui a abouti, il y a quelques mois, à la loi qui propose de suivre l'acquisition des piliers de ce qu'on a appelé le socle commun des connaissances dans le
Oui.
primaire et dans le secondaire. L'Académie a joué un rôle important en suivant cette affaire qui est tout à fait essentielle. Il est évident que nous sommes toujours sous le régime du collège unique au collège. Théoriquement, tous les collégiens doivent avoir le même enseignement. Bon, c'est évident que ce n'est pas facile à faire en raison de l'hétérogénéité des enfants en fonction de leur capacité personnelle, mais aussi de l'environnement dans lequel ils vivent. Tout cela est bien clair. Donc la nouvelle loi, la loi Fillon, a voulu que on prenne les plus grandes précautions pour que, quelles que soient les circonstances, tout élève qui quitte le collège ait un minimum de connaissances dans les grands domaines de la culture, qu'il s'agisse bien sûr de la parole, de la lecture, de la langue, de ce que vous voulez, et des
Et des
sciences
sciences.
mathématiques, mais aussi des sciences expérimentales. Alors nous avons aidé, et l'Académie s'est lancée dans cette entreprise difficile, mais assez enthousiasmante, s'est lancée dans cette opération pour pouvoir aider le ministère donc à définir ce qu'étaient les piliers du socle commun. Et d'ailleurs, ça a été assez intéressant parce que ça a débouché sur des textes qui viennent d'ailleurs d'être publiés il y a quelques jours, mais aussi ça a débouché sur une question posée à l'Académie par le ministre sur ce que devrait être l'apprentissage du calcul dans les premières années du primaire.
Oui, c'est ça. Monsieur Pierre Léna est venu aussi nous en parler.
Donc nous avons
Et
une
vu de
belle séance où
façon,
le
voilà.
ministre a écouté l'avis de l'Académie sur l'apprentissage du calcul, en particulier l'importance du calcul mental
Bien sûr, bien
et de la
sûr.
pratique des opérations. Donc ça, c'est typiquement une activité d'interaction entre sciences et société, mais il y en a d'autres. Je voudrais en citer une autre qui est importante, qui concerne la recherche. Bon, la recherche, c'est proche de la science, par définition, par essence, mais... Il y a au-delà des faits scientifiques, l'organisation de la recherche. Ce sujet a été l'objet de beaucoup de débats récemment. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a ce mouvement Sauvons la recherche, avec même des manifestations de chercheurs. Et tout ça a abouti à une loi qui a été publiée au mois d'avril 2006, il y a un peu plus d'un an maintenant, ou juste un an. Et cette loi a été l'objet de nombreuses discussions dans lesquelles l'Académie des sciences a joué un rôle important. Nous avons constitué un groupe de réflexion très, très actif et qui a rédigé un rapport qui a été soumis à l'Académie. Et plusieurs de nos propositions ont été retenues, pas toutes. La loi est une loi d'une certaine façon provisoire. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais enfin, ça a été un progrès, même si certains regrettaient donc qu'elle n'allait pas un peu plus loin dans certains domaines. Donc là, nous avons joué un rôle tout à fait significatif.
Monsieur Bach, est-ce que c'est difficile aussi d'obtenir un consensus au sein de l'Académie? Est-ce que tous les académiciens ont la même opinion? Parce que ça me
C'est une
paraît
question
difficile, non?
intéressante. Alors, consensus, l'unanimité, certainement pas. Vous savez, la pensée unique, ce n'est pas ce qu'on souhaite, ni les uns ni les autres. Non, on arrive à dégager des lignes de force que rejoignent la très grande majorité de nos confrères.
Et
Pas tous,
on
pas
peut donc
tous.
déclarer une position de l'Académie des
Ah oui, alors il y a
sciences.
même un vote. On vote,
On
c'est-à-dire qu'on
vote.
prépare un texte. Parfois, on peut regretter que les demandes des uns et des autres atténuent un petit peu ou réduisent un peu le souffle du texte initial. Parce qu'à force de tenir compte de ce que dit chacun, bon, on arrive à perdre un petit peu du souffle initial. Mais enfin, on arrive à un texte qui est voté. Et nous proposons un texte comme texte de l'Académie, comme opinion de l'Académie, que lorsqu'il a été voté. Voilà. En séance plénière. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a parfois quelques oppositions. Bon, c'est une chose qui est tout à fait normale. D'ailleurs, sur l'enseignement du calcul en particulier, nous avons quelques débats internes. Et c'est très bien, je trouve que...
Oui, c'est enrichissant.
C'est enrichissant et tout à fait une bonne chose. Et puis, il y a d'autres domaines dans lesquels nous interagissons avec la société, l'environnement, tout ce qui s'est passé sur les climats, tout ce qui continue à se passer sur le réchauffement thermique, sur l'évolution des climats, est un sujet éminemment scientifique. Le sujet sur lequel nous avons eu d'importantes réunions récemment, parfois elles aussi contradictoires, tous nos confrères n'étaient pas d'accord et ces opinions ont été largement diffusées dans la presse. Donc nous sommes en quelque sorte un des endroits, sinon l'endroit le mieux adapté, à des échanges un peu sur le fond de tous les aspects scientifiques multidisciplinaires. Nous avons la chance d'être
pluridisciplinaires, effectivement, ça, tout à fait.
Nous aspirons en tout cas à avoir en notre sein l'élite scientifique de la nation. Bon, nous élisons régulièrement des nouveaux membres, donc même ceux qui n'y sont pas, ils sont destinés à rejoindre l'Académie. Donc nous avons vraiment, on peut le dire, surtout que maintenant nous avons 230 membres, donc nous avons vraiment...
Il y a de la place,
Il y a de la place, donc on peut vraiment penser que nous avons l'essentiel de l'élite scientifique, reconnue en tout cas. Et nous sommes multidisciplinaires, comme vous le disiez, et nous sommes indépendants. Nous n'avons pas de compte à rendre à tel ou tel organisme, donc nous pouvons nous exprimer librement. Alors cet ensemble...
Oui, c'est finalement une richesse.
C'est une grande richesse. C'est une possibilité importante d'expression d'idées tout à fait essentielles.
Et très démocratique,
finalement. C'est démocratique et aussi c'est une responsabilité, parce que nous nous posons parfois le problème, nous disons... Est-ce qu'on peut rester silencieux sur tel sujet? C'est un sujet d'un débat qu'on entend dans les médias, etc. Est-ce que nous avons notre opinion? Il faut que nous la donnions. Les gens ne comprendraient pas, et ils auraient raison d'ailleurs, que nous restions silencieux. Alors parfois, ce n'est pas toujours simple. Sur les organismes génétiquement modifiés, c'est un débat important pour lequel il y a des problèmes scientifiques.
Sur le nucléaire, c'est plus compliqué?
Sur le nucléaire, c'est un peu plus simple. Il y a plus de consensus. Sur les CGM, il y a un grand consensus, mais il y a d'autres personnes qui ont des idées personnelles, qui ne s'appuient pas toujours sur
Il faut délimiter le champ de la science, l'engagement personnel.
Nous sentons que lorsque la science apparaît dans un débat de société, nous pensons que nous devons dire quel est l'état de la science dans le domaine, au-delà de tous les débats politiques ou les idées qui sont respectables aussi, mais qui relèvent d'une autre nature, d'une autre,
oui,
d'une autre forme
de
pensée.
Donc, scientifique.
Je pense que, si on prend l'exemple de l'écologie, je pense que nous sommes tous écologistes à l'Académie des sciences, mais beaucoup d'entre nous, j'en suis le premier, n'acceptent d'être écologistes que sur des bases rationnelles. Bon,
bien
à partir
sûr.
De ça, c'est notre rôle de les présenter, de les faire comprendre, ce qui n'est pas évident. Puis après, les faire admettre, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de présenter la situation telle que nous pensons qu'elle est.
Et l'Académie des sciences joue-t-elle un rôle dans la prévention de la santé publique, par exemple?
Alors là,
parce que là, avec l'Académie de médecine, comment ça s'articule?
Oui, c'est vrai. Alors, nous avons une convention avec l'Académie de médecine. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des deux académies, je me sens très concerné. Nous avons les meilleures relations qui soient avec nos confrères de l'Académie de médecine et nous faisons régulièrement des réunions communes, des rapports communs. Nous organisons, par exemple, au mois de décembre, un colloque qui, je suis sûr, intéressera beaucoup, beaucoup de personnes. C'est sur le vieillissement à partir de 60 ans.
Il y en a qui vont se sentir concernés.
Moi, je me sens directement concerné, donc on parle très librement. Je n'ai pas beaucoup plus de 60 ans, mais je les ai dépassés. Et l'idée étant que, bien sûr, on n'est pas vieux, entre guillemets, à partir de 60 ans, mais on n'est plus tout à fait le même qu'on était à 40. Et en tout cas, on n'est plus du tout le même qu'on était à 60 ans il y a un siècle. Donc, c'est un sujet qui est à la fois scientifique, parce qu'il y a beaucoup de sciences derrière, sociologique, médicale, et même politique, parce qu'il y a les échanges de
gérer la
derrière, etc. Donc c'est un très beau sujet, multidisciplinaire là aussi. Et nous avons un colloque donc au début décembre sur ce sujet que nous organisons avec l'Académie des sciences de médecine. Je serais ravi avec le professeur Beaulieu avec qui j'organise ce colloque de venir vous en reparler à ce moment-là.
Mais volontiers. Monsieur Bach, comment ce travail se fait-il? Il y a des groupes de travail? Quelle est l'importance de ces groupes? Sont-ils nombreux, les académiciens? Peu nombreux?
Enfin, nous avons effectivement, lors des groupes et des comités, ça est assez organisé. Nous avons une académie qui est très structurée. Nous avons l'habitude de tout mettre sur le papier, nous avons des règlements et des statuts très précis. Là, nous avons effectivement des groupes sur beaucoup des sujets que nous avons évoqués, qui se réunissent en assemblée d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes, suivant les groupes, qui peuvent d'ailleurs inviter des membres extérieurs à l'Académie, le font souvent, lorsque les experts, il y a des experts importants qui ne sont pas membres de l'Académie. Et très souvent, ces groupes rédigent, au terme de leurs travaux, un rapport. Et certains de ces rapports prennent une forme physique, ce qui est celle d'un livre qui est remis aux autorités du pays, en particulier les ministres concernés. Et nous avons chaque année 4, 5, 6 rapports de ce type, donc, qui représentent une des activités.
Ah oui, 4 ou 5, ça fait beaucoup de rapports.
Ça fait beaucoup,
oui.
Et certains de ces rapports sont assez volumineux, assez consistants. C'est donc une activité importante de l'Académie. Il y a d'ailleurs un service spécialement dédié à cette tâche.
Et les ministères ou les ministres vous font-ils des commandes de sujets?
Absolument. Alors nous avons deux situations. Dans certains cas, les ministres nous passent commandes. Nous avons eu des commandes passées par le président de la République. Dans d'autres cas, c'est nous-mêmes qui choisissons les thèmes. C'est quelque sorte une auto-saisine que nous faisons et nous choisissons nous-mêmes les thèmes que nous voudrions traiter en demandant aux ministres s'ils sont intéressés. C'est souvent le cas parce que ce sont bien sûr des sujets importants du moment.
Si je vous écoute bien, Monsieur Pack, les académiciens des sciences sont très occupés.
C'est vrai, nous sommes très occupés. Alors nous sommes nombreux, donc ça aide. Mais pour ceux qui ont la charge de l'organisation, c'est vrai que c'est un peu lourd parce que entre les séances académiques qui sont hebdomadaires, les colloques exceptionnels, il y en a quand même 4-5 par an.
Et les rencontres internationales dont vous n'avez
pas
parlé.
Ça, c'est la dernière chose auxquelles nous tenons beaucoup et nous tenons de plus en plus. Nous considérons que l'Académie des sciences, d'une certaine façon, est l'ambassadeur de la science dans tous les grands pays étrangers. Pas seulement d'ailleurs les grands pays scientifiques, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi les pays émergents, européens, toute l'Europe de l'Est maintenant, avec qui nous sommes en relation, mais aussi la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis aussi les pays en développement. Donc, ça fait alors là un nombre de pays considérable. Nous ne pouvons pas tout faire au niveau que nous souhaiterions atteindre, mais enfin, notre relation internationale ou nos relations internationales représentent une très grande préoccupation. Nous avons un délégué aux relations internationales, M. Capron. Mais le président et nous-mêmes essayons de l'aider et d'avoir nous-mêmes des actions importantes. Nous avons reçu de façon très officielle le président de l'Académie des sciences de Chine à l'Institut il y a une dizaine de jours. Et nous avons également reçu le président de l'Académie des sciences américaine il y a un mois.
Monsieur Bach, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'organisation, mais surtout sur le rôle, l'implication, l'engagement de l'Académie des sciences dans les questions de la société. Grâce à vous, nous les avons mieux comprises et j'espère que nous aurons le plaisir de vous écouter nous parler prochainement de l'immunologie qui est votre discipline et votre spécialité. Merci, monsieur Jean-François Bach.
Merci beaucoup.